Alors, comme je le disais à ceux qui étaient ici à l'heure, et je le répète pour ceux qui ont été légèrement en retard, c'est mon habitude de commencer à l'heure, et je vous prierai donc d'être toujours à 9h moins 2 le matin et à 2h moins 2 l'après-midi pour les cours. Alors d'abord, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez, mais je vous signale quand même que, en principe, mon cours est en fait, c'est d'ailleurs l'idée du cours qui m'a donné l'idée du livre, sera publié au cours de l'année 93 qui vient, et donc, je dirais, vous pourrez à ce moment-là avoir ce livre. D'autant plus que vous allez sans doute m'aider par vos questions, par vos interventions, par vos objections, à corriger, à aménager le livre. C'est un livre, d'ailleurs, qui est pratiquement achevé, non pas dans sa rédaction définitive, mais vous voyez, c'est un ensemble déjà tout fait. Et je crois que pour gagner du temps, plutôt que d'improviser, j'improviserai dans l'entretien, mais je préfère carrément vous lire ce que j'ai rédigé. Nous gagnerons du temps en concision. Et vous, ce que je vous demande de noter surtout, c'est lorsque vous avez une hésitation à propos de ce que je viens de dire, ou une objection à propos de ce que je viens de dire, ou si une question surgit en vous, notez-la. C'est plutôt cela que je vous demande de noter, de façon à ce que notre entretien ensuite puisse être le plus fructueux possible. À cause de mon âge, je ne peux pas vous donner un temps trop grand, donc c'est limité à 2h le matin, de 9h à 11h, et l'après-midi de 2h à 4h. Donc aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi matin, ça fait donc 7 cours, 14 heures que nous passerons ensemble. Merci. Et j'aimerais que il y ait le plus d'entretien possible. Pour l'entretien, donc, préparez plutôt vos questions. Aujourd'hui, peut-être notre entretien sera bref, je n'en sais rien, peut-être qu'il durera jusqu'à 11h, mais en tout cas, de toute façon, à 11h et à 4h, vous aurez pitié de mon âge, je m'arrêterai, parce que pour moi, c'est une grande fatigue de dépasser 2 heures d'affilée le matin et 2 heures d'affilée l'après-midi. Alors, Le titre de ce cours n'est pas le titre annoncé. Le contenu, eh bien, les parties sont bien les mêmes, mais le titre est différent. Le titre, c'est le traité d'alliance. Le traité d'alliance. Et alors, il y a 4 parties qui ne sont pas d'ailleurs de même poids et de même longueur. Une première partie, Dieu et son alliance. Je pense que vous avez tous cette partie, l'indication de ces parties, Dieu et son alliance. 2, le Seigneur, sa loi et son peuple. 3, les 70 années, 1 à 70. Et quatrième partie, le temps de l'Église après 70. Donc voilà les 4 parties du cours. Mais j'ai été obligé, bien sûr, de diviser cet ensemble en 7 parties du fait que je dispose de 7 fois 2 heures, et alors évidemment je ne peux pas m'arrêter pile toujours à la fin d'une partie et juste avant le commencement d'une autre, si bien que vous arriverez quand même à rétablir la situation dans votre esprit. Alors nous abordons donc ce matin la première partie, Dieu et son alliance. L'Écriture sainte nous révèle ce qu'on appelle généralement l'alliance de grâce. Le mot « grâce » ici est à prendre dans le sens du mot « haine » dans la Bible hébraïque. « Haine » en transcription en lettres françaises, c'est « H-E-N ».« Haine », c'est la bienveillance, c'est la faveur. Et donc, puisque c'est la bienveillance, la faveur, c'est aussi la grâce. Alors donc, l'Écriture sainte nous révèle cette alliance de grâce que Dieu a établie entre lui et les siens. Et il emploie à plusieurs reprises dans l'Écriture l'expression « mon alliance ». L'alliance de grâce, c'est son alliance. Et évidemment, cette alliance a une histoire. Et cette histoire est à la fois une, unique, et elle est aussi diverse dans ses étapes, dans ses dispositions. Alors, à partir de là, on peut définir l'Écriture comme étant le traité d'alliance entre Dieu et son peuple. D'ailleurs, nous aurons peut-être l'occasion plus tard d'en parler. Il est regrettable, au fond, qu'on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'ailleurs, l'Ancien Testament et le mot Testament, ce ne sont pas des mots, des termes bibliques. Terme public certainement, quelquefois ancienne alliance, nouvelle alliance, mais l'idée d'un ancien testament et d'un nouveau testament n'est pas une idée biblique. Et lorsque on parle de l'ancien testament, il vaudrait mieux employer l'expression la Bible hébraïque, ou bien on pourrait parler, comme le fait quelquefois le nouveau testament, de la loi, les prophètes et les psaumes, parce que les psaumes marchaient en tête des écrits, ou bien pour abréger la loi et les prophètes, ou pour abréger davantage encore la loi. Donc il faut faire attention, la loi peut désigner tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais je pense qu'il vaut mieux employer l'expression « la Bible hébraïque » pour ces trois premières parties, qui sont en hébreu, vous le savez, la Torah, les Nebiim, les prophètes, et les Ketubim, les écrits. Donc, il y a ces trois parties, et puis alors, la quatrième partie de la Bible, plutôt que de dire le Nouveau Testament, il vaudrait mieux dire, me semble-t-il, nous verrons pourquoi plus tard, la tradition apostolique. Il y a donc, au fond, une Écriture sainte, une Bible, qui est composée de quatre parties, la loi, les prophètes, les écrits et la tradition apostolique. Tout cela constitue le traité d'alliance. Puisqu'il faut toujours commencer par le commencement, il faut en venir à la Genèse. Et le début de la Genèse nous parle tout de suite du commencement de l'Alliance. Et le commencement de l'Alliance, c'est l'Alliance que Dieu établit avec Adam et Ève. Alors là, je vais peut-être interpeller certains d'entre vous. Je crois que c'est une erreur commise dans le passé que de parler de l'alliance que Dieu établit avec Adam et Ève comme d'une alliance des œuvres. Quelquefois, on a employé, même dans certaines confessions de foi comme réformées, comme la confession de foi de Westminster, on parle de l'alliance des œuvres. Je crois que c'est une erreur, et une erreur grave, car avec Adam, nous avons affaire à une alliance de grâce. Et nous avons affaire à une alliance de grâce, non pas seulement avec Adam après la chute, mais avec Adam avant la chute. Car l'alliance est un don immérité que Dieu fait à la créature humaine. D'ailleurs, vous savez, dans l'épître de Jacques, Jacques dit que de Dieu vienne tout don excellent et tout cadeau parfait. L'alliance est un don excellent et un cadeau parfait, et donc une grâce que Dieu a faite à Adam. Et l'alliance comporte à la fois deux partenaires. Il y a d'une part le Dieu transcendant, immanent. Je dis transcendant, immanent, parce que la transcendance du Dieu biblique et l'immanence du Dieu biblique n'ont pas grand-chose à voir, sinon rien à voir, avec ce qu'on appelle d'ordinaire la transcendance et l'immanence. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est précisément transcendant dans son immanence. La transcendance de Dieu est une distinction qualitative infinie entre Dieu et sa création, mais c'est une transcendance qui n'établit aucune distance entre lui et sa création. C'est une transcendance, donc, qui comporte son immanence, c'est-à-dire sa présence à toute créature, sans, bien entendu, aucune confusion avec elle. Donc, on peut parler en réalité de, en une expression unique, séparer les deux mots par un trait d'union, la transcendance immanence de Dieu. Et alors, nous évitons l'idée de transcendance des déistes, et nous écartons par là même l'idée de la confusion des panthéistes. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de confusion, mais il y a la transcendance immanente de Dieu. Dieu est transcendant jusque dans sa présence en dedans de moi, et Dieu, dans sa présence la plus intime avec moi, est toujours transcendant. Et la transcendance immanence forme un tout. On ne peut pas parler séparément, et il ne faut pas parler, me semble-t-il, séparément de la transcendance et de l'immanence de Dieu, et il vaut mieux parler de ce que j'appelle la transcendance immanente. Alors donc, il y a Dieu, le transcendant immanent, dont parle l'Écriture, et il y a la liberté-responsabilité, là aussi il faut mettre un petit trait d'union entre les deux, la liberté-responsabilité des créatures humaines. Seulement, quand on parle de la liberté des créatures humaines, il faut faire très attention à savoir que ce n'est pas une liberté-responsabilité autonome, car il n'y a aucune autonomie, c'est-à-dire il n'y a aucune loi à soi-même de la créature. La créature est toujours sous la loi de Dieu, et donc la créature est toujours théonome. Autrement dit, il n'y a pas la souveraineté de Dieu, et puis à côté de la souveraineté de Dieu, même si on fait la souveraineté de Dieu à 99% et la liberté et responsabilité humaine à 1%, il n'y a pas 99% de souveraineté de Dieu et 1 petit pourcent de responsabilité humaine, il y a 100% de souveraineté de Dieu, et sous cette souveraineté de Dieu, sous la théonomie, il y a la réalité créée de la liberté et responsabilité humaine. C'est très important parce que la plupart du temps, on place la souveraineté de Dieu et la liberté humaine à côté l'une de l'autre. Et alors on fausse les choses complètement, aussi bien du côté de Dieu, dont on restreint alors la souveraineté, que du côté de l'homme, qui en réalité n'a plus de liberté-responsabilité si c'est à côté de Dieu. L'homme n'a une liberté-responsabilité que par Dieu et grâce à Dieu, parce que c'est en Dieu qu'il a la vie, le mouvement et l'être, et donc ce n'est pas à côté de la souveraineté de Dieu, mais sous la souveraineté de Dieu, qu'il y a une réelle responsabilité et liberté humaine. D'ailleurs, ce qui fait la responsabilité de l'homme, c'est précisément qu'il est placé sous la théonomie, c'est-à-dire sous la loi de Dieu. Alors, évidemment, l'alliance a toujours comporté, l'alliance de grâce a toujours comporté, et comportera toujours à la fois un côté bénédiction, c'est-à-dire un côté évangile, et un côté loi, qui est aussi bénédiction, mais qui peut devenir malédiction. Et nous voyons ça tout de suite avec Adam. Et dans l'alliance de grâce, il en sera toujours ainsi. Autrement dit, Dieu donne à Adam son évangile, sa grâce, et en même temps, il place Adam dans sa responsabilité, à savoir qu'il doit croire en Dieu et être fidèle à Dieu. Et dans l'alliance de grâce, il y en a toujours. Alors là, je dirais, on a quelquefois parlé d'Adam avant la chute, au fond, comme si Adam pouvait être un pélagien, hein. Dès qu'on parle de l'alliance des œuvres, alors ça voudrait dire alors qu'Adam aurait pu se sauver par les œuvres. Ça voudrait dire que Adam ne serait pas un homme ayant à vivre par la foi de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette alliance des œuvres où Adam, l'homme, serait un pélagien et aurait à se sauver par l'accomplissement de la loi. Non, Adam est un homme qui est sous la grâce de Dieu de par sa création même, et qui est en même temps sous la loi de Dieu, parce que dans son alliance, le Dieu qui apporte l'évangile est aussi le Dieu qui apporte la loi, le Dieu qui donne sa grâce et le lieu qui donne ses ordres. Et ça va ensemble. Dans l'alliance de grâce, il y aura toujours à la fois la grâce souveraine de Dieu et la nécessité du côté de l'homme de la foi et de l'obéissance. Bon, alors je pense que il n'y a pas de problème particulier pour vous. Là où les choses s'animent, c'est que dans l'Écriture sainte, il nous faut faire attention à deux perspectives dont nous oublions souvent l'une ou l'autre, à savoir une perspective historique et une perspective symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr, il s'agit de faits, d'événements, de choses qui sont arrivées, donc il s'agit d'histoire, nous sommes avec la Bible dans une perspective historique, et en même temps, nous sommes avec la Bible dans une perspective symbolique, parce que Dieu veut que nous visualisions en images ce que nous lisons. Je prends un exemple concret. Il y a le jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, il y a des arbres. Il y a une réalité historique du jardin. Il y a une réalité historique des arbres. Et ce que nous raconte la Genèse, c'est passé. C'est-à-dire, c'est historique. Mais en même temps, c'est symbolique, ou si l'on préfère, c'est sacramentel. Et en tout cas, il y a, mais nous verrons que c'est valable pour tous les arbres du jardin, mais il y a deux arbres qui sont à la fois des arbres au sens ordinaire et des arbres sacramentels. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un arbre interdit, ou en tout cas un arbre dont la manducation des fruits est interdite, et puis il y a l'arbre de vie. On peut dire d'ailleurs que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est comme l'étendard de la seigneurie de Dieu dans son alliance avec la créature humaine. Et en manger, puisque Dieu l'interdit, serait commettre un crime de lèse-majesté. Et ce serait aussi choisir et aimer la mort, puisque Dieu a dit: si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras. Quant à l'arbre de vie, il se dresse comme l'étendard du salut, au sens de la plénitude de vie. Autrement dit, Adam, avant la chute, ne trouve son salut qu'en Dieu et qu'en l'arbre de vie. Et il a besoin d'être continuellement sauvé. Parce que le mot « salut » en hébreu, c'est un mot beaucoup plus vaste. C'est un mot qui évoque la qualité de vie, c'est un mot qui évoque la santé, c'est un mot qui évoque même la communion avec Dieu. Alors, nous avons donc affaire à des arbres sacramentés, en ce qui concerne en tout cas ces deux arbres-là, mais en fait, cela va au-delà, pour la bonne raison que les arbres du jardin représentent, en même temps qu'ils sont des arbres réels, ce sont des arbres symboliques qui représentent toutes les possibilités offertes à l'homme. L'homme peut manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, cela signifie, si vous voulez, les choses à un plan simplement ordinaire, quotidien, pour la nourriture, voilà, comme un peu, on pourrait parler là de culture au sens de l'agriculture. Mais en même temps, ce sont des arbres symboliques qui disent à l'homme toutes les possibilités te sont ouvertes. Tu peux entreprendre des recherches dans tous les ordres de la connaissance et dans tous les ordres des arts. Et toutes les sciences et tous les arts te sont offerts. Toutes les possibilités te sont ouvertes. Y compris d'ailleurs la possibilité de manger du fruit de l'arbre de vie, parce que c'est en moi que se trouve le salut, mais tu ne prendras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, tout est possible, à l'exception d'une seule chose. Et c'est ce qui est signifié par le jardin d'Éden, si on en parle dans la perspective symbolique. Dieu offre à l'homme toutes les possibilités, sauf une chose, à savoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'alliance de grâce commence dès la création de l'homme, puis de la femme. Mais, bien entendu, le caractère de l'alliance de grâce va changer après la chute. Si bien qu'on peut en effet considérer une première disposition, une première étape de l'alliance de grâce, à savoir avant la chute, la période antélapsaire, et puis ensuite il y a une seconde période de l'alliance de grâce à partir de la chute. Mais tout de suite, dès après la chute, l'alliance de grâce est renouvelée. Elle est renouvelée parce que Dieu va donner à Adam à la fois une parole d'évangile, une parole d'espérance, ce qu'on appelle quelquefois le protévangile. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Celle-ci écrasera la tête du serpent et le serpent écrasera le talon de la femme. Genèse 3,15. Ça, c'est l'évangile. C'est la parole d'espérance que Dieu donne à Adam après la chute. Et en même temps que cette parole d'espérance, Dieu montre ce qu'il va y avoir de négatif pour l'homme. D'abord, le salaire du péché, c'est la mort. Et ensuite, la création, l'environnement de l'homme va être modifié. C'est le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Alors donc, c'est bien important de voir l'histoire de l'Alliance commençant avec Adam dès sa création, reprise avec Adam et Ève après la chute. Et il y a donc cette alliance de Dieu, cette alliance dont Dieu dit qu'elle est mon alliance. Et le mot hébreu qui est employé, vous le savez, c'est le mot berit, qui correspond au grec diatheke. Mais il faut bien voir que diatheke n'a jamais signifié testament. Et c'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi appeler une partie de la Bible l'Ancien Testament et une autre partie le Nouveau Testament, au lieu de parler de la Bible comme du traité d'alliance et de montrer, si je peux dire, les moments successifs de cette alliance à travers l'histoire. Alors là, je m'excuse de faire encore un petit excursus du côté de l'hébreu, mais vous savez qu'après Adam, il va y avoir deux lignes ou deux peuples dans l'humanité. Il va y avoir d'une part les fils de Dieu, les descendants de Seth, et puis il va y avoir les fils de l'homme, les descendants de Caïn, et ces deux lignées vont se poursuivre jusqu'au moment où elles vont être mêlées, confondues par des alliances, des mariages mixtes, et finalement, c'est l'ensemble de l'humanité qui va empirer de plus en plus. Alors que dans la ligne avec Seth, nous avions eu des gens qui marchaient avec Dieu, alors que dans Enoch, et celui qui, dans la septième génération après Adam, est indiqué comme marchant avec Dieu. Et dans la septième génération des Caïnites, nous voyons apparaître Lamech, qui est un abominable personnage qui ne respire que le sang et le meurtre. Et puis finalement, il y a confusion de ces deux descendances, la descendance d'Adam par Seth et la descendance d'Adam par Caïn, et alors à ce moment-là, il y aura le jugement de Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Et alors donc, tout va recommencer, si je puis dire, avec Noé. Donc si vous voulez, on a une sorte de première étape, Adam, une deuxième étape, Noé. Et alors, avec Noé, on se trouve devant, il y a un petit problème de traduction dont je voulais tout de suite vous parler. Il y a un verbe que vous connaissez sans doute, le verbe « cum », qu'on transcrit en lettres françaises « k-u » avec un accent circonflexe « m », et ce verbe « cum », sous sa forme « ifil », a le sens « ratifié »,« confirmé », et la plupart des traductions que nous avons met « établir ». Par exemple, on a généralement la traduction pour Genèse 6, 18, quand Dieu dit « Je veux faire venir le déluge sur la terre, mais avec toi », alors là, on traduit généralement « J'établirai mon alliance ». Et je crois que partout, dans la Genèse, au chapitre 6, 9 et 17, comme dans l'Exode au chapitre 6, il faut barrer, rejeter cette traduction « J'établirai » et mettre à la place « Je confirmerai ». Car en effet, vous pouvez le vérifier dans les dictionnaires d'hébreu, oifil, le verbe cum, signifie je confirmerai, je ratifierai. Donc, Genèse 6, 18 doit être lu, je confirmerai mon alliance. Et je confirmerai mon alliance, c'est toujours la même alliance, c'est l'alliance avec Adam avant la chute. Reprise autrement après la chute, pour la bonne raison qu'évidemment, entre la première alliance de Dieu, la première forme d'alliance de Dieu avec Adam et la seconde, il y a eu le péché. Mais, alors évidemment, le mot grâce, là, va comprendre plus, en un sens, qu'il ne comprenait avant, puisque maintenant, il va falloir qu'Adam vive du pardon de Dieu. Donc le mot grâce ou le mot haine qui signifie bienveillance, faveur, va acquérir un sens plus vaste. Mais c'est la même alliance. L'alliance avec Adam avant la chute, l'alliance avec Adam après la chute, c'est toujours l'alliance de Dieu qui est reprise avec Noé. Dieu confirme son alliance avec Noé. Et chaque fois que dans l'histoire, Dieu va confirmer son alliance, nous allons voir les points principaux de ces étapes, il va y avoir à la fois des promesses, des commandements, des avertissements, ou des menaces, si vous préférez, et des signes sacramentels. Je répète, à chaque étape marquante de l'alliance de grâce, il y a promesse, commandement, avertissement et signe sacramentel. Et déjà avec Adam, avant la chute, vous avez tout ça. Vous avez des promesses, vous avez des commandements, vous avez l'avertissement, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et il y a des signes sacramentels, précisément dans le cas d'Adam, les arbres du jardin, et en particulier les deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors maintenant, je passe à un autre paragraphe. Dans le psaume 121, qui est le second de ce qu'on appelle les prières pour les montées, prières pour les montées, on pourrait traduire les prières pour les ascensions, il y a, dès le début du psaume 121, l'expression « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Eh bien, je me propose de lever avec vous mes yeux vers ces montagnes d'où nous viendra le secours. Et de montagne en montagne, si je puis dire, nous élèverons nos cœurs depuis le jardin d'Éden jusqu'à la cité d'en haut. Le livre d'Habacouc a cette petite phrase que Dieu fait marcher sur les hauteurs. On pourrait presque traduire Dieu fait marcher sur les montagnes. Alors donc nous allons voir successivement la montagne d'Éden, la montagne d'Ararat, la montagne de Moria, la montagne de Sion, la montagne du Sinaï, la montagne de Sion. Et au fond, c'est intéressant de voir au point de vue exégétique, au fond, à chaque étape de l'histoire de l'Alliance, il y a une montagne qui pointe. D'abord, je m'aperçois d'aller plus vite, d'abréger un peu, il y a d'abord la montagne d'Éden. La montagne d'Éden. Le jardin était sans doute établi sur un plateau au flanc de cette montagne, mais ce que nous dit la Genèse, c'est que le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin se divisait en quatre bras en descendant de la montagne. D'ailleurs, s'adressant un jour au roi de Tyr, fils bien lointain d'Adam et cependant mystérieusement identifié avec lui, Dieu dira, je cite, c'est dans Ézéchiel au chapitre 28, « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Donc, ce qui se passe à l'établissement de l'Alliance se place sur la montagne d'Éden. Et la première montagne à contempler, en un sens, parce qu'on voit le secours de Dieu apparaître là, c'est cette montagne d'Éden qui est la première montagne de l'Alliance. C'est intéressant de voir, je vous ai dit donc que tous les arbres du jardin représentaient toutes les possibilités en tout domaine, toutes les techniques, toutes les sciences, tous les arts. Il y a un certain nombre de mots qui reviennent, qui sont précisés au point de vue de ce qu'on pourrait appeler la culture. Bien sûr, la culture au sens premier, c'est l'agriculture, et le jardin d'Éden avait certainement besoin d'être cultivé, donc il faut faire attention. On dit, mais qu'est-ce que l'homme pouvait bien faire dans le jardin d'Éden? Il avait du boulot, et non seulement il avait le travail de cultiver le jardin, mais il devait aussi le garder, et puis il devait faire des tas de choses. Il devait dominer sur les créatures, il devait nommer les créatures. Et ça, c'est l'origine de toutes les sciences. Qu'est-ce qu'au fond qu'une science? C'est bien bête de répondre comme je vais le faire, mais je crois que c'est quand même une juste façon. La science consiste à nommer avec de plus en plus de précision les créatures. C'est une nomination progressive des choses, de tous les éléments qu'on peut appeler subhumains, qu'il s'agisse du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral, l'homme est appelé à nommer. Il nomme les animaux, mais pour pouvoir cultiver, c'est-à-dire entrer dans la culture au sens large du mot, il faudra que l'homme entre dans toutes les cultures possibles. Ce qu'on appelle en général, d'ailleurs maintenant, la culture. Il y a l'agriculture, mais il y a tous les échelons, tous les niveaux de la culture. Et il y a donc un ordre culturelle que Dieu adresse à l'homme sur la montagne d'Éden. L'homme, comme roi, doit dominer la création, y poursuivre ses recherches en nommant les créatures avec de plus en plus de précision, transformer par ses techniques et ses arts l'univers subhumain qui lui est confié. Mais il ne peut faire cela avec sagesse que dans la crainte, c'est-à-dire dans le respect adorant du Seigneur et la soumission pleine et entière à sa parole. Voilà, ça c'est l'homme avec son sa vocation royale. Avec sa vocation de sacrificateur, il ne peut garder et servir cette maison de Dieu où il a été placé qu'en discernant et maintenant les distinctions frontières établies par le Seigneur. Et c'est ce qu'on peut appeler les séparations dont parle le début de la Genèse. Lumière, ténèbres, eau d'en haut et eau d'en bas, terre, mer, bien, mal, masculin, féminin. Et comme sacrificateur, il doit rendre, il doit restituer dans la reconnaissance à Dieu tout ce que Dieu lui a donné. Si vous voulez, Dieu donne à l'homme toutes les possibilités de la culture et l'homme en retour doit rendre dans la reconnaissance, restituer dans la reconnaissance tout cela à Dieu. Et il doit finalement, en offrant tout à Dieu, s'offrir lui-même à Dieu. Et on comprend que Saint Paul est appelé cela le culte logique. Le terme grec qui est employé, c'est logikos. Et logique, en bon grec néo-testamentaire, ça veut dire conforme au logos, conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est logique, au sens profond du mot? C'est ce qui est conforme au logos. Et attention, c'est pas ce qui est conforme à la raison, avec un grand R, divinisée de l'homme. Alors là, ça pose des problèmes d'ordre philosophique dont il n'est pas question que nous abordions les points aujourd'hui. Et enfin, prophète, roi, sacrificateur, et enfin, prophète, l'homme ne peut demeurer associé au conseil de Dieu, qui par sa révélation lui fait connaître en partie son secret, qu'en écartant, qu'en chassant toute tentation ou même toute velléité d'autonomie. Le péché originel et le péché d'autonomie. Et il y a deux façons d'être comme Dieu. Selon la Bible, l'homme est comme Dieu, puisqu'il est image de Dieu et qu'il est appelé à une ressemblance croissante avec Dieu. Donc, en un sens, l'homme doit être comme Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être image et ressemblance de Dieu. Mais à sa place de créature, c'est-à-dire dans la reconnaissance de la théonomie. Tandis qu'Adam a eu la volonté insensée d'être comme Dieu en substituant sa propre loi, son autonomie, autonomos, à la loi du Seigneur, à la théonomie. Donc, il y a là un drame qui s'est passé et le péché humain, qui est d'ailleurs notre participation au péché d'Adam, alors là nous touchons à un grand mystère dont votre professeur de dogmatique vous a peut-être déjà parlé ou dont il parlera, c'est une chose importante. Le péché humain, c'est cela. Et, mystérieusement, nous y avons participé. Le Nouveau Testament nous dit, Saint Paul nous enseigne, que nous avons tous péché en Adam. C'est un grand mystère. Autrement dit, nous sommes porteurs et responsables du péché d'Adam. Comment se fait-il qu'Adam ait porté dans son péché le nôtre, ou plutôt, comment avons-nous péché en Adam Ben, c'est très mystérieux, ça. Mais enfin, il y a d'autres choses très mystérieuses. On peut chercher à approcher ce mystère. Qu'est-ce que c'est qu'approcher un mystère? C'est pas le résoudre. Approcher un mystère, c'est le cerner. C'est bien voir quel il est. Bien là, il y a un mystère dont nous devons bien voir qu'il est. Il y a ce mystère du péché d'Adam. Et ceci est souligné par le fait que le péché d'Adam est inexplicable. En effet, si nous avions, comme s'y sont efforcés de vaines théodicées, si nous nous efforcions d'expliquer le péché d'Adam, par exemple, par un défaut dans l'œuvre divine de création, ce qui est blasphématoire, ou par quelque chose qui aurait manqué à ce que la Bible appelle la perfection d'Adam. Nous l'avons vu dans le texte que je vous ai cité d'Ézéchiel. Nous aurions quelque excuse. Toute explication du péché est identique à une excuse du péché. C'est parce que le péché est inexplicable que nous en sommes inexcusables. Rechercher une explication du péché, c'est manifester vraiment qu'on est pécheur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi bien Adam et Ève qu'Ève dans ce que nous rapporte la Genèse. Si j'ai péché, c'est la faute de cette bonne femme. Là, qui, ah non, non, j'ai d'abord, moi j'y suis pour rien, c'est le serpent, etc. Puis alors, à la limite, comme le serpent, c'est une créature de Dieu, au fond, c'est la faute de Dieu. Si Dieu n'avait pas créé le serpent, si le serpent n'avait pas parlé à Ève, si Ève n'avait pas induit Adam à manger, ben, tout serait arrangé. On aurait une explication et donc on aurait une excuse. Mais il n'y a pas d'explication et donc il n'y a pas d'excuse. Il est inexplicable et inexcusable, tout ensemble, qu'Adam ait péché. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des choses que notre intelligence finie ne parvient pas à comprendre, mais que, précisément parce que notre intelligence est finie, devant laquelle notre intelligence peut s'incliner. Ben, nous avons là un mystère. Le mystère, non seulement du péché d'Adam, car ça c'est un grand mystère, inexplicable, inexcusable, mais cet autre mystère, c'est que nous avons péché en Adam. Chacun de nous a péché en Adam. Nous sommes co-auteurs du péché d'Adam. Alors, sur la montagne d'Éden, nous avons une première étape de l'Alliance. Deuxième étape, la montagne d'Ararat. Là, je vous ai dit tout à l'heure, donc, il y avait eu cette fusion dans le mariage des fils de Dieu et des filles des hommes, des Sétites et des Caïnites, et finalement, le Seigneur, le cœur affligé, c'est ce que dit la Genèse, décide d'effacer hommes et animaux de la surface de la terre, et c'est le jugement du déluge. Mais, il y a un reste. Avec Adam, avec Noé et les siens, l'alliance de grâce est renouvelée et confirmée. Et où est-ce que ça se passe, ça? Sur une montagne, la montagne d'Ararat. Alors nous avons un long passage, là, Genèse 8, 20 à 9, 27, qui nous rapporte ce qui s'est passé à la montagne d'Ararat. Et alors, Noé a bâti, à ce moment-là, sur la montagne, un autel au Seigneur, offrant un sacrifice d'animaux purs que le Seigneur agréa. Et alors, nous avons la parole d'alliance renouvelée. Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, semaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit ne cesseront pas. Donc Dieu renouvelle sur Noé et ses fils la bénédiction d'alliance, on peut dire la bénédiction alliancielle, déjà prononcée sur nos premiers parents. Il y a une reprise du mandat ou de l'ordre culturel. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Nous avons Dac comme une répétition de ce qui était dit en Genèse 1. Soumettez la terre, dominez sur les créatures. Donc, 8 personnes, dont Noé, rescapé du déluge comme un reste fidèle de l'Alliance de grâce, constituent à ce moment, sur la montagne d'Ararat, l'embryon du peuple futur du nouvel Adam à venir. Dans sa première épître, Pierre parle du petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, qui furent sauvées au travers de l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Et nous avons un signe sacramentel. Ce signe sacramentel du renouvellement de l'alliance ou de la confirmation de l'alliance ou de la réitération de l'alliance avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. D'ailleurs, quand Ézéchiel aura sa vision de la gloire de Dieu, il dira « Tel l'aspect de l'arc qui est dans le ciel un jour de pluie, tel l'aspect de la clarté qui l'enveloppait, c'était une apparition de la gloire du Seigneur. » Et quand l'apôtre Jean aura la vision de Dieu dans l'île de Patmos, il verra le trône du Seigneur enveloppé d'un arc-en-ciel. Troisième montagne, la montagne de Moria. Alors là, nous avons à voir affaire à un personnage capital dans l'histoire de l'Alliance, qui est Abraham. C'est Abraham. La figure d'Abraham, qui se nommait d'abord, vous le savez, Abram, c'est-à-dire père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Alors la figure d'Abraham est celle d'un père terrestre, Ab en hébreu signifie père, en communion profonde avec le Père céleste, jusqu'à en devenir à la montagne de Moria, en Genèse 22, la vivante parabole. Le Père, Abraham, parabole du Père, prêt à sacrifier son fils unique et bien-aimé. La tablette génésiaque qui parle d'Abraham rapporte 8 rencontres entre Dieu et Abraham. Et si la première de ces rencontres eut lieu à Ur, en Chaldée, dont les parents d'Abraham étaient originaires, les 7 autres eurent lieu en Palestine, d'abord à Sichem, au centre du pays, ensuite et le plus souvent à Hébron, plus au sud, mais enfin sur la montagne de Moria, au lieu de la future Jérusalem, et peut-être même sur la colline où fut bâti le temple. C'est très mystérieux, Abraham. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Abraham était la figure du Père prêt à sacrifier son fils unique et bien-aimé. Mais je dirais que nous avons un autre épisode extraordinaire dans toute la Bible. C'est la rencontre d'Abraham, c'était la 6e rencontre d'Abraham avec Dieu, lorsqu'Abraham eut l'honneur insigne et unique de recevoir, voilé certes, mais cependant pressenti par le Père des croyants, de la Sainte Trinité elle-même. D'ailleurs, très intéressant, ce récit qui est dans le chapitre 18 de la Genèse, on passe constamment du « tu » singulier au « toi ». Et on passe du « vous » à « l'un ». Et lors de cette rencontre, 3 promesses sont faites à Abraham. 1, celle d'un peuple qui descendra de lui et sera le peuple saint, le peuple de Dieu. 2, celle d'une terre qui sera donnée à ce peuple et sera la terre sainte. Et 3, celle dans ce peuple et sur cette terre d'une bénédiction universelle. Historiquement, Le peuple de Dieu n'existera qu'à partir de Moïse. La terre n'appartiendra vraiment au peuple de Dieu qu'à partir de David. Et la bénédiction universelle n'apparaîtra dans le peuple juif et sur la terre d'Israël qu'avec Jésus-Christ. Si bien que Abraham, c'est extraordinaire de penser à ça, n'a rien eu, ou presque, de ces trois promesses. Mais il crut. C'est l'homme de la foi, Abraham. En fait, de terre promise, il n'eut à sa mort que la propriété d'un champ vis-à-vis de Mamré, près d'Hébron, champ qu'il avait tenu à acheter pour bien marquer la possession à Éphron, le Hittite, pour y ensevelir le corps de sa femme, Sarah. Tout ce que Abraham a eu, c'est la grotte de Macpéla, où sa femme fut ensevelie, et où lui-même fut enseveli à son tour. Ça fait pas beaucoup de terre sainte. Mais Abraham crut à Dieu. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Il n'a pas vu le peuple qui allait sortir de lui. Tout ce qu'il a eu, et encore sur le tard, c'est un fils légitime, Isaac. En fait, de peuple, c'est pas bien grand. Et puis la bénédiction, alors, à venir dans le peuple saint et sur la terre sainte, Abraham, là, n'en a rien eu, et cependant, nous dit la lettre aux Hébreux, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi, ajoute l'auteur de la lettre aux Hébreux, d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alors là, il y a un sacrement aussi qui apparaît. Chaque fois, des promesses, des avertissements, un sacrement. Le sacrement, c'est celui de la circoncision. Ce sacrement scellait la triple promesse faite par le Seigneur au Père des croyants. La circoncision signifiait et scellait l'adoption alliantielle du circoncis par Dieu et la qualité de membre de l'alliance de grâce qui devait être reconnu au circoncis, tant par les autres membres de l'alliance que par lui-même. Et la marque sacramentelle de la circoncision exigeait spirituellement la reconnaissance par le circoncis du droit particulier que Dieu avait sur lui et le plaçait sous les promesses, certes, mais aussi sous les justes menaces des avertissements du Seigneur. Aussi Dieu ordonne-t-il à Abraham et à sa descendance de garder son alliance, de garder la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Je n'entre pas dans les détails, mais ce serait intéressant ici de voir que l'expression hébraïque, c'était karat brit, c'est-à-dire couper une alliance. On coupait une alliance. Alors dans nos Bibles, on traduit généralement conclure une alliance. Mais c'est dommage en un sens parce que le verbe couper a ici son importance. Et pourquoi? Parce que vous savez que dans le récit de Genèse 15, le Seigneur, après avoir donné à Abraham de couper en deux du bétail, et après que dans l'obscurité profonde du soir, une fournaise ardente et des flammes fut sorti entre les animaux coupés en deux, il coupa l'alliance avec Abraham en lui renouvelant les promesses. Et la coupure, c'est précisément l'excision du prépuce, la coupure de la circoncision, marquée dans le corps des circoncis, leur vocation d'être fidèles à l'alliance coupée par Dieu. L'alliance était coupée par Dieu, et la coupure de la circoncision était le sacrement de cette alliance coupé par Dieu. Et attention, la suite de la Torah, c'est-à-dire les autres livres après la Genèse, vont préciser que si le circoncis devenait infidèle et reniait l'alliance, il serait justement coupé de l'alliance. C'est le même verbe hébreu karat qui est traduit tantôt par couper, tantôt par retrancher en français. Par exemple, dans Genèse 17, 14, là où là où on a mis, sera retranché du milieu de son peuple, ce serait plus mieux si on suivait bien le verbe karat et si on mettait sera coupé du milieu de son peuple.
Genèse combien ?
Genèse 17, 14. Ensuite, nous arrivons à la quatrième montagne, la montagne du Sinaï. L'alliance, après Abraham, avec sa triple promesse d'un peuple, d'une terre, d'une bénédiction universelle, fut confirmée à Isaac, Genèse 26, puis confirmée à deux reprises à Jacob, Genèse 28 et Genèse 35. Et c'est pourquoi on a parlé et reparlé souvent ensuite du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était une manière de dire le Dieu de l'Alliance. Et d'ailleurs, dans la Bible hébraïque, il est question de l'Alliance conclue, réitérée, confirmée à nos pères. Dans dans cette étape, il faut prendre en compte deux moments capitaux de l'histoire de l'Alliance. Un, l'épisode du buisson ardent, Exode 3 et 4, et le second, la confirmation de l'Alliance, cette fois, avec le peuple d'Israël. Or, si nous serrons de près les textes, nous voyons que les deux moments capitaux se sont passés tous deux sur la montagne du Sinaï. C'est sur la montagne du Sinaï qu'il y eut l'épisode du buisson ardent, et c'est encore sur la montagne du Sinaï qu'il y a eu la solennelle confirmation de l'Alliance avec le peuple d'Israël. Jusqu'à présent, au fond, on a eu affaire à une famille, celle d'Adam et de ses descendants, ou celle de Noé et de ses descendants, Noé, ses fils et leurs femmes. Mais ensuite, on a affaire non plus à une famille, mais on a affaire avec les patriarches, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, on a affaire à une tribu. À une tribu. Qu'est-ce que c'est qu'une tribu ? C'est une famille agrandie. D'ailleurs, la tribu d'Israël, en réalité, va être une tribu comportant des Israélites, des descendants d'Israël, et des tas de serviteurs, de toute une maison autour d'eux. Vous pouvez vérifier cela dans les textes. Au fond, c'est tout un ensemble tribal, mais il n'y a pas de peuple. Le peuple de Dieu est né au départ d'Égypte. Et le peuple, en tant que peuple d'Israël, n'existe qu'à partir de Moïse. Famille, tribu, mais maintenant il s'agit d'un peuple. Et un embryon de gouvernement, mais aussi, ce qui est intéressant, un embryon d'écriture sainte. Au fond, dès le moment où l'alliance est devenue alliance avec un peuple, et non plus alliance avec des hommes, ou avec une famille, ou avec une tribu, mais il y a eu écriture. Autrement dit, le peuple de Dieu n'a jamais existé sans écriture. Et on peut marquer avec Moïse à la fois l'origine du peuple de Dieu et l'origine de l'écriture de Dieu, de la parole écrite de Dieu. Alors là, ce serait intéressant, bien sûr, de développer. Parce que à partir de là, on va avoir placé dans l'arche de l'Alliance le livre de l'Alliance. L'écriture rédigée sur des tablettes, la Sainte Écriture, le début, le commencement, l'embryon de la Sainte Écriture, qui est l'écriture de l'Alliance, le traité d'Alliance, est placé dans l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance elle-même est situé dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le temple portatif, dans le temple provisoire du désert. Le tabernacle sera remplacé ensuite par le temple. Alors il y avait un temple portatif. On redressait ce tabernacle dans toute la marche au désert, à partir du Sinaï, à partir de la montagne du Sinaï, et dans ce tabernacle, il y avait l'arche portative, elle aussi, et dans l'arche déposée le début de l'Écriture sainte, l'embryon de l'Écriture sainte. Donc on a à la fois peuple saint et Écriture sainte. Et alors ce qui est intéressant là, c'est que les signes sacramentels vont se développer dans la direction qu'on peut appeler celle du sang. Ce serait intéressant de voir la théologie de l'Écriture comme théologie du sang. Il faudrait écrire la sang avec un S majuscule et il faudrait essayer de voir pourquoi. D'abord parce qu'il ne peut pas y avoir d'expiation du péché, et donc il ne peut pas y avoir de salut sans le sang. C'est une affirmation importante de l'Écriture, la nécessité du sang. Et c'est pourquoi la circoncision est un sacrement sanglant, et que la Pâque, qui va commencer d'exister à partir de Moïse, et qui est le grand sacrement de confirmation d'alliance à partir de Moïse, sera un sacrement sanglant. Et c'est vrai, il y a eu déjà plusieurs ouvrages, aussi bien du côté orthodoxe ou catholique que du côté protestant, je parle orthodoxe en parlant de l'orthodoxie de l'Église d'Orient, eh bien il y a eu des ouvrages sur le sang. Et nous avons même un petit ouvrage assez extraordinaire à mon sens, écrit par Catherine de Sienne sur le sang. Catherine de Sienne, vous savez, a été à un moment donné une véritable conseillère des papes. Et c'est certainement parmi... Je sais que c'est une des très rares femmes qui a été proclamée docteur de l'Église, dans l'Église romaine. Et son petit ouvrage sur le sang est assez extraordinaire du point de vue biblique. Mais il y a eu des ouvrages catholiques, en particulier par le chanoine Mazur, et il y a eu des ouvrages orthodoxes, en particulier par Serge Bulgakov, et il y a eu des ouvrages protestants, en particulier chez les puritains, au XVIIe siècle, au sujet du sang, la théologie du sang. Pourquoi le sang? Pourquoi sans le sang, il n'y a pas d'expiation du péché? C'est mystérieux. On retrouve d'ailleurs, on a une indication déjà dans la Genèse, tout au départ. Vous savez que Adam et Ève, après le péché, s'étant rendus compte de leur nudité, avaient cousu des ceintures de feuilles. Mais Dieu remplaça ces ceintures de feuilles par des vêtements en peau de bête. Et là aussi, nous avons une notation intéressante de la nécessité donc de sacrifice d'animaux pour couvrir le péché. Enfin, ce n'est qu'une parenthèse que je vous donne là, mais c'est important de voir qu'il y a eu donc un renouvellement de l'alliance avec ces deux aspects, Évangile et loi. Et alors là, la loi, vous savez que c'est sur le Sinaï qu'il va y avoir la proclamation du Décalogue. Je n'ai pas le temps d'entrer dans plus de détails. Et pour finir, ensuite je vous donnerai quelques minutes de repos, vous les avez bien méritées, il y a la montagne de Sion. Donc, vous voyez bien cette suite de montagnes, si je puis dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra secours. La montagne d'Éden, la montagne d'Ararat, la montagne de Moria, la montagne du Sinaï, et maintenant, avec David, la montagne de Sion. La montagne de Sion arrive, et David arrive, à la suite de toute une histoire. Il faudrait revoir les grandes figures qui ont jalonné cette histoire, celle de Josué, celle de Samuel, celle très ambiguë et qui peut être très controversée, celle de Saül. Et on arrive à la confirmation de l'alliance avec David. C'est à Jérusalem, devenue sa cité, que David fit monter sur la montagne de Sion, confondue avec la montagne de Moria, l'arche de l'Alliance, devant laquelle est invoqué le nom du Seigneur. Et ce jour-là, David, vous le savez, face au mépris de sa femme Michal, fille de Saül, dansa de toute sa force devant le Seigneur, comme dans une sorte de joyeuse confession de foi, au milieu des clameurs du peuple, dit la Bible, et au son du cor. L'arche de l'Alliance fut placée au milieu d'une tente que David avait dressée pour elle. Et il faut noter ici que l'arche qui avait été dérobée par les Philistins, après une de leurs victoires contre Israël, peu après la vocation de Samuel, ne réintégra pas le tabernacle lorsqu'elle fut renvoyée par les Philistins et récupérée par Israël. Le tabernacle pérégrina, si je puis dire, de son côté, et l'arche du sien. Ce fut comme un temps de mort pour le tabernacle qui ne ressuscita qu'en temple, quand le temple que construisit Salomon, fils de David. Et c'est là, sur la montagne de Sion, face à l'arche, trône visible du Dieu invisible, que le roi David, vassal du Seigneur, reçut la parole de confirmation et de renouvellement de l'alliance. David avait offert l'Holocauste et les sacrifices de communion, il avait béni le peuple au nom du Seigneur, il avait distribué à tous et à chacun un gâteau de pain, un rôti et du gâteau de raisin, et peu après à David qui lui disait « Vois donc, c'est moi qui habite une maison de cèdre alors que l'arche de Dieu n'habite que sous la toile d'une tente », le prophète Nathan fut chargé par Dieu de répondre « Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël hors d'Égypte jusqu'aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente dans le tabernacle. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y demeure. » Alors là, c'est la seconde des bénédictions des promesses faites à Abraham qui est réalisée. Avec Moïse, le peuple commence à exister. Le peuple que Dieu avait promis à Abraham dans sa descendance. Et c'est à partir de David que vraiment la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Et alors il y a une confirmation solennelle. David prie, « Seigneur, tu parles de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce la voix d'un être humain ? Que tu es donc grand, Seigneur Dieu, nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Maintenant, Seigneur Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et agis selon ta parole. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Veuille maintenant la bénir pour qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. » C'est peut-être une des plus grandes prophéties de Jésus-Christ qui nous soit donnée dans la Bible hébraïque. Voilà. Alors, je vous ai fait, en sautant beaucoup de choses, à cause de peu de temps, une espèce de panorama de l'histoire de l'Alliance. Et alors, si vous voulez bien, nous allons prendre quelques minutes de repos. Je vous donne quelques minutes de repos. Et alors, nous pourrons commencer un entretien. Alors, qui entame l'entretien ? Ne perdons pas de temps. Celui qui a quelque chose à signaler, le fasse.
Vous avez dit que la montagne de Sion est confondue avec la montagne de Morija, c'est ça ? Ou bien de...
Oui.
Oui, c'est ça. C'est la même. C'est la même montagne ou...
c'est la même, ou si c'est pas la même, c'est quasiment la même. Je veux dire, en ce sens, que ce dont on est sûr, c'est que, vous savez que Jérusalem est une ville à colline, mm-hmm. ou à montagne, parce qu'en réalité, le mot montagne, vous savez, c'est comme en France, on dit le mont Saint-Michel, c'est un rocher de quelques dizaines de mètres. C'est la même chose. On dit mont, montagne, même si c'est une, ce que nous appellerions nous plutôt une colline. Et alors, l'emplacement exact du mont Moria, si... Là, il faut étudier, bien sûr, des dictionnaires. Là, je me suis servi du dictionnaire de la Bible, du New Bible Dictionary. Et c'est là que j'ai vu qu'on identifiait... de même, par exemple... il y a identification, là tout le monde s'accorde pour dire que la scène du buisson ardent, et c'est bien au mont Sinaï, vous voyez. Mm-hmm. Alors quelquefois il y a deux noms différents pour désigner une montagne. Alors là il faut faire attention, c'est là où c'est intéressant. J'ai toujours essayé de me reporter soit à un atlas biblique, soit à un dictionnaire biblique pour bien situer les... Ça n'a d'ailleurs de toute façon, là dans le cas particulier, qu'une importance secondaire. Ouais. Peu importe si c'est exactement la même montagne ou si ce sont deux montagnes très voisines. C'est...
Il n'y a pas d'implication théologique.
Il n'y a pas d'implication théologique. Allez-y, messieurs.
Par rapport à ce que vous avez dit sur Diakouké et Alliance, j'aimerais bien savoir comment vous, personnellement, vous traduisiez en hébreu 9. Parce que j'ai... Robertson, dans son livre sur le fruit des alliances, plaide pour Alliance, et j'ai regardé quelques autres commentaires. Il n'y en a aucun, même parmi les plus conservateurs, qui mettent Alliance, ils mettent tous Testament.
À quel verset?
Verset 16, à partir du 15, disons.
15. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, mm-hmm. afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés sur la promesse de l'héritage éternel. Ah, à propos. Car là où il y a testament, oui, mais là, en réalité, le mot est aussi le mot alliance. Hein. Il n'y a aucune raison de traduire testament, là. Je suis même étonné qu'on ait mis... Parce que, au fond, le rapprochement que fait ce passage, c'est intéressant ce que vous dites, le rapprochement que fait ce passage de la lettre aux Hébreux entre alliance, il est médiateur d'une nouvelle alliance, hein, et alors il veut introduire l'idée de la mort et du sang. Hein, dans la suite, la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque moment, prit le sang, aspergea le livre, lui-même et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Hein? » Mais je pense que normalement, partout où vous avez dit « Diatheke », il faut traduire « alliance ».
Parce que c'est ce que pense O. Palmer Robertson. Vous connaissez celui du Christ des Alliances, là, en anglais. Oui. Donc lui plaide pour alliance, et il montre bien, parce qu'il y a quand même un problème, c'est sûr, quand il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc évidemment, là, on est vraiment en plein testament, c'est-à-dire testament prend effet quand la personne meurt. Et lui, bon, je ne me rappelle plus toute la démonstration, parce que c'est quand même assez pointu, et il arrive à soutenir que ces passages-là peuvent s'expliquer tout à fait, même si on traduit alliance et que ça fait référence à autre chose et pas ce que le texte, d'une manière évidente, semble dire. Ouais. Mais j'ai lu des commentaires parmi les plus conservateurs et tous soutiennent, ils soutiennent le passage de alliance à testament pour juste ces deux versets-là. C'est les seules exceptions qu'ils font, mais ils le soutiennent. Et je crois même, si je n'ai pas fait de contresens, si ma mémoire n'est pas défaillante, que Voss soutient plus ou moins testament.
Oui, la difficulté, si vous voulez, c'est toujours quand, alors que vous avez un emploi constant du mot diatheke, et qu'il est partout traduit par alliance, brusquement, il y aurait alors un endroit, un seul, où il faudrait traduire par testament. Ça me paraît gros, quand même.
Ça, c'est un des arguments de Robertson.
Oui, mais... d'autant plus que, comme vous le savez, l'intéressant du mot diathéké, c'est que il est bien explicatif du sens du mot berit. Parce que, en fait, il y a une grande différence. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu toute cette suite de travaux, en particulier avec Klein et d'autres, pour montrer que, alors que on parle toujours de, on emploie le mot syntéke pour une alliance entre égaux, si je puis dire, diatéke exprime toujours une alliance entre le suzerain et le vassal, entre le seigneur et le vassal. C'est-à-dire que, si vous voulez, alors que syntéke c'est horizontal, diatéke c'est vertical. Et ça permet de bien voir que le mot berit, l'alliance dont parle l'Ancien Testament, quand Dieu dit beriti, mon alliance, en réalité, ça signifie toujours une alliance dont le rédacteur ou dont l'artisan, l'auteur, opère avec souveraineté. Vous voyez ? Dans Syntéke, c'est un contrat. Chacun discute et on arrive à un compromis, à un contrat. Tandis que là, pas du tout. C'est le seigneur de l'alliance qui donne les termes de l'alliance. Et c'est à la fois pour le vassal un évangile, une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose d'immérité. Mais en même temps, ça comporte des stipulations, des commandements, des directives, auquel le vassal se soumet. Autrement dit, Dieu dit, je fais alliance avec toi, mais toi, attention, tu dois observer mes commandements et prendre garde à mes avertissements. Si bien que dans le périt ou dans le diatéké, il y a quelque chose de souverain. Alors, on peut dire que dans un testament aussi, le testateur est souverain, mais ça me paraît quand même curieux de... Alors que le mot diatéke est un mot employé X fois, je ne sais pas combien de fois, je ne les ai pas comptés, ou je n'ai pas vu si quelqu'un les avait comptés dans le Nouveau Testament. Alors il y aurait un cas et un seul où il faudrait traduire testament. Ça me paraît, sur le plan du vocabulaire, sur le plan grammatical, bien hardi.
Oui. Oui, vous avez employé plusieurs fois le mot sacramentel pour désigner plusieurs signes de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancienne Alliance. Bon, je comprends bien ce que vous voulez signifier, mais est-ce qu'on ne devrait pas réserver le mot de sacrement uniquement pour la scène et le baptême? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller un peu dans la perspective catholique qui, elle, justement, trouve sept sacrements? Est-ce que dans l'emploi du mot, il n'y aurait pas une spécificité quand même pour la scène et pour le baptême?
Oui, il est indiscutable qu'il y a une spécificité pour la scène et le baptême, mais il faut faire bien attention. On pourrait distinguer les sacrements et les actes sacramentels. Si vous voulez, pour moi, le grand théologien qui a développé tout cela au XVIe siècle, c'est Pierre Viret. Pierre Viret est un homme assez exceptionnel, en ce sens que parmi les théologiens nombreux qui ont opéré en Suisse, il est le seul Suisse. Farel, Calvin, etc., étaient français. Viret, qui est né à Orbe, est le seul théologien suisse. Et c'est un très très grand théologien. Et c'est, j'avais à l'époque, si je ne m'abuse, je ne veux pas me tromper, j'avais 17 ans, lorsque j'ai lu les institutions de Viret. Et c'est assez extraordinaire parce que Viret, au fond, développe une sorte de théologie de la Bible où, justement, il emploie constamment le mot sacramentel. Et alors, on pourrait traduire, mais c'est plus dangereux, je veux dire, on pourrait employer un autre mot, qui serait le mot mystère. Vous savez d'ailleurs que dans l'Église orthodoxe d'Orient, on appelle les sacrements des mystères. On ne dit pas les sacrements, on dit mystère. Bon, alors on pourrait dire, on pourrait parler d'arbres mystérieux. Mais arbre mystérieux, ça fait penser à quelque chose d'impalpable. et qui va dans le sens d'une négation de la chose. Tandis que le mot sacramentel, qu'est-ce qu'un sacrement comporte toujours une réalité visible. L'arc-en-ciel, le pain, le vin, réalité visible. L'eau du baptême, une réalité visible. Et les arbres du jardin, réalité visible. Vous voyez, ça empêche, en prenant sacramentel plutôt que mystérieux, ça empêche d'évaporer la réalité historique, ou la réalité chosique, je ne sais pas comment dire. Tandis que, si on emploie... Alors, moi je n'emploie pas le mot sacrement, je ne crois pas l'avoir employé.
Non, sacrement.
Je parle souvent que ce sont des réalités sacramentelles. Je ne dirais pas l'arc-en-ciel est un sacrement. Mais je dirais volontiers que l'arc-en-ciel est une réalité sacramentelle. Ben on peut dire que c'est une réalité mystérieuse, on peut, je ne sais pas. Mais c'est sûr, si vous voulez, que pour les arbres du jardin, certains disent que pour moi, les arbres du jardin sont des réalités à la fois très réelles, des arbres ordinaires, et en même temps ont une portée sacramentelle. Mais en tout cas, pour deux arbres, c'est indéniable. Parce que vous savez que la fameuse, en France, d'ailleurs c'est courant, on parle toujours de la pomme au sujet d'Adam et d'Ève et tout ça. Tout ça parce que en latin, vous pouvez employer fructus pour désigner un fruit, vous pouvez employer poma. Et ce serait très grave de traduire poma par pomme. Poma, c'est un fruit. Autrement dit, à cause de l'influence du latin, de la Vulgate de Saint Jérôme qui traduit poma, là, ça y est, alors on parle de la pomme qu'a mangé Ève et tout. Non, et on ne sait pas à quoi ressemblait cet arbre-là. J'en sais rien. Et personne ne le sait. Bon, est-ce que c'était un arbre, j'allais dire, d'une essence disparue? C'était un arbre. Un arbre qu'on voyait, et un arbre qui portait des fruits. Maintenant, quelle espèce d'arbre, nous n'en savons rien, parce que la Bible ne nous le dit pas. Et alors, dans la traduction latine, il y a poma, mais c'est une erreur profonde de traduire poma par pomme. Il faut traduire poma par fruit. Et alors, c'est quand même un arbre avec des fruits, et c'est un arbre qui est interdit. De même, l'arbre de vie. C'est aussi quelque chose sacramentel, parce qu'en réalité, vous savez qu'on retrouve l'idée de l'arbre de vie dans l'Apocalypse, parce qu'il y a une grande correspondance entre la Genèse et l'Apocalypse, même avec les termes, le jardin, les fleuves, l'arbre de vie, vous avez un symbolisme de la Genèse qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Et alors, c'est intéressant de voir que l'arbre de vie, en réalité, pour la nouvelle alliance, pour l'ère nouvelle de l'alliance, c'est la croix. Et d'ailleurs, la croix elle-même avait tout à fait la forme d'un arbre, puisque vous savez qu'en réalité, c'était le taux grec, la forme du taux grec, c'est-à-dire une barre verticale et une barre horizontale. En réalité, je dirais, le fait d'avoir ajouté une branche au-dessus, on peut l'expliquer soit esthétiquement, soit par le fait qu'il y avait par-dessus la croix en haut l'inscription Jésus-Christ roi des Juifs. Bon, ça faisait comme quelque chose au-dessus, mais en réalité la croix c'est un taux et c'est un arbre. D'ailleurs, vous avez un ou deux textes du Nouveau Testament, je ne me souviens plus, qui emploie le mot arbre pour désigner la croix. Alors, l'arbre de vie, vous voyez, a aussi une portée typique, dans la mesure où c'est de l'arbre de vie, et pour nous, nous le savons, c'est de la croix que nous recevons la vie. C'est parce que Christ est mort que nous vivons. Il est mort pour que nous ayons la vie. Et sa croix est l'arbre de vie. Alors, je crois en effet qu'il ne faut pas parler de sacrement. Mais je crois qu'on peut parler de réalité sacramentelle. Sinon, moi j'écouterais bien une proposition autre. Si, je n'en vois pas d'autre qu'on a parlé quelquefois aussi d'arbre mystique. Mais arbre mystique, c'est embêtant. Parce que là aussi, on parle de quelque chose d'invisible, de... bon, risque de, d'évaporer la réalité de l'arbre. Oui.
Est-ce qu'on est en droit de considérer tous les éléments qui se trouvent dans les trois premiers chapitres de la Genèse comme ayant une portée historique? Ou bien est-ce que certains éléments, on peut considérer qu'ils ont essentiellement une portée symbolique, un peu comme fait M. Blocher dans son livre Révélation des origines? Quelle est la limite entre...
Bon, alors c'est un des points, vous savez que j'ai beaucoup d'amitié pour Henri Blocher, mais je n'ai pas bien avalé son livre Révélation des origines. Parce que je crois que, finalement, c'est la réalité historique de la Genèse qui s'évapore. Je vous dis très franchement, je ne sais pas quelles sont vos idées personnelles, mais moi je considère que c'est assez grave d'évacuer la réalité historique du récit de la Genèse. Ce que je crois, c'est que le récit de la Genèse contient des éléments sacramentel, à savoir à la fois réel et symbolique. Bon, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin, parce que quand même, je pense à la description des jours, je suis aussi sceptique sur l'affirmation rigoureuse qu'il s'agit de jours de 24 heures. Hein? Je ne dis pas non plus que ça désigne des époques, je pense bien que ça désigne des jours. Mais quand on dit que Dieu a tout créé en six jours, qu'est-ce que c'est que ces jours? Je ne sais pas, d'autant plus que Yom, dans la Bible hébraïque, désigne des durées diverses. Mais, d'un autre côté, je vois qu'il y avait un soir, et qu'il y avait un matin. Hein? Et donc, je suis tenté de dire, il s'agit de jours. D'abord, qu'est-ce qui nous dit qu'au moment de la création... et même à partir de la création au quatrième jour des luminaires que sont le soleil et la lune, qu'est-ce qui peut dire que nous avons affaire là à des jours de durée égale, même entre eux? Rien ne dit dans le texte que la durée du premier jour était égale à la durée du second, égale. Mais c'était des jours, en ce sens qu'il y avait un soir, qu'il y avait un matin, donc c'était vraiment des jours, et en tout cas à partir du quatrième jour, ce sont des jours qui comporte la rotation du soleil autour de la Terre ou de la Terre autour du soleil. Là on peut faire entrer Einstein sur ce point en se disant que tout est relatif. C'est plus simple mathématiquement de parler de la Terre tournant autour du soleil, mais on peut en effet dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Je veux dire, c'est, là n'est pas le point, mais en tout cas il y a un rapport de toute façon entre à partir du quatrième jour entre le soleil et la Terre, puisque le soleil est pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. Bon, mais je dirais, moi je préfère rester dans une certaine imprécision là où l'écriture elle-même est dans une certaine imprécision. Dire 24 heures, je dirais, mais d'abord qu'est-ce qui nous dit que au cours des millénaires la durée d'un jour a toujours été vraiment de 24 heures? Nous n'en savons rien, et en tout cas les jours de la création, qu'est-ce qui peut nous dire? Mais je crois à la réalité historique de ces jours. Alors, il me semble, si vous voulez, que Blocher a introduit quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse quand même chez Blocher, qui est mon ami depuis 30 ans, il était tout jeune homme quand j'ai commencé à le connaître, c'est que il a quand même, il semble qu'il soit quand même un peu ébranlé maintenant. Je ne sais pas s'il réécrirait pareil Révélation des origines aujourd'hui. Et en particulier, je crois qu'il commence à se poser des questions sérieuses au sujet de l'évolution, parce qu'il s'est rendu compte quand même que c'était moins acquis scientifiquement qu'il est tenté de le croire.
Donc vous avez parlé des 7 jours de la création, et qu'est-ce qu'on peut penser du serpent par exemple bientôt?
Ah, personnellement, je crois tout à fait que le serpent est sacramentel aussi. En ce sens que, si vous voulez, il désigne. D'ailleurs, nous avons un rapport avec l'Apocalypse, là aussi, qui montre le serpent comme le grand dragon, le serpent ancien, le grand dragon. Et je pense, si vous voulez, qu'il s'agit là d'un. d'un animal qui est réel, mais qui symbolise toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de Satan. Mais là aussi, je ne crois pas qu'il faille entrer dans certains détails. Vous recevez, vous savez, la lettre que la faculté adresse aux amis de la faculté. Vous avez vu le dernier chose ? Où il y a une chose, un article de Paul Wells. Bon, là aussi, on a... Moi, je le dirais aussi bien, Paul Wells étant là, je crois que Paul Wells a eu la tentation d'entrer dans des détails biologiques qu'il vaut mieux éviter. Sans compter que, par exemple, il paraît, ce qui est tout à fait excusable de la part d'un anglo-saxon, et il dit toujours la gamète, alors qu'il s'agit du gamète. Mais, je dirais, qu'est-ce qui permet d'entrer dans des détails physiologiques au sujet du miracle de l'incarnation. Je préfère, si vous voulez, qu'on reste non pas dans le vague, mais dans une certaine imprécision, là où la Bible ne nous donne pas de précision. Comment la Vierge Marie a-t-elle commencé à porter en elle Dieu, le Fils, s'incarnant? Le comment, je dirais, nous n'en savons strictement rien. L'Écriture sainte ne nous en dit strictement rien. Ce que nous devons croire, c'est qu'il y a eu un moment, à l'Annonciation, où la Vierge Marie a commencé à porter en elle le Seigneur s'incarnant. Aller avec plus de précision, comme je crois que Paul Wess s'y est un peu risqué, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on entre dans des détails physiologiques sur lesquels nous ne savons rien. Et alors, ça crée même, ou ça peut créer des questions. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à entrer dans des détails physiologiques, vous allez avoir des discussions. Alors ça me fait penser, je peux parler comme ça, ça ne vous ennuie pas trop, ça me fait penser à, il y a un mot grec, parthénos, que l'on a traduit généralement par vierge. Or, la naissance virginale, d'après les documents que nous avons, il n'en est question que dans le Nouveau Testament au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. C'est d'ailleurs inscrit dans les confessions de foi du symbole de la peau.